VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Science et Santé avec Camille Gros-Didier. Mais d'abord, le journal. Le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé ce lundi à un remaniement de son gouvernement et remplacé trois ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères. D'autre part, des tensions entre militaires ont agité Bujumbura ce lundi après de nouvelles manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Le ministre de la Défense, Poncien Gachibubwenge, est remplacé par Emmanuel Naonvoki, un civil, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la présidence Gervais Abaero. C'est la première fois depuis une cinquantaine d'années qu'un civil occupe ce poste clé au Burundi. Monsieur Naonvoki est un ancien magistrat qui a dirigé la cour anticorruption et il est apolitique selon la présidence. Au ministère des Relations extérieures, Alain Menyamitwe, jusqu'ici ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine, succède à Laurent Kavakure. Et la ministre du Commerce, Virginie Chiza, est remplacée par Irina Inanore. Pendant ce temps, de petits groupes de manifestants se sont rassemblés aujourd'hui dans plusieurs quartiers périphériques de Bujumbura, fief de la contestation contre un troisième mandat présidentiel depuis fin avril. À cette occasion, l'on a évité de justesse des affrontements entre deux unités de l'armée, l'une attaquant des manifestants et l'autre voulant s'interposer. Pour la première fois depuis le début du mouvement, c'est l'armée et non la police qui a été déployée pour assurer l'ordre.
Sachez aussi que les pays des Grands Lacs, réunis en sommet extraordinaire aujourd'hui en Angola, ont condamné la tentative de coup d'État contre le président burundais Pierre Nkurunziza et défendu sa légitimité. Nous saluons la défense de l'ordre constitutionnel par les forces loyales, a déclaré le président José Eduardo dos Santos. D'après l'AFP, il a aussi appelé à la tenue des élections législatives et présidentielles au Burundi, malgré la crise actuelle. Nouvelle attaque contre l'armée dans le nord-ouest du Mali. Trois militaires ont été tués tôt ce matin à Bambara Maoudé, à 100 km au sud de Tombouctou. L'attaque attribuée aux rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad a été menée alors que les militaires dormaient, souligne l'AFP, citant des sources militaires. Cette attaque intervient trois jours après la signature d'un accord de paix par le gouvernement et la médiation internationale, mais sans la CMA. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a dénoncé une grave violation du cessez-le-feu qui met en danger la paix. Enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. 27 ans après les faits, sa veuve était entendue pour la première fois aujourd'hui par un juge d'instruction. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source judiciaire. La justice burkinabé a démarré fin mars une enquête sur la mort de Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Tension politique en République démocratique du Congo. Une plateforme de l'opposition rejette le dialogue proposé par le président Joseph Kabila, y voyant une manœuvre pour permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat. Un dialogue qui, d'après l'opposition, risquerait de l'entraîner sur un chemin de transition et de déboucher vers un glissement du calendrier électoral en violation de la Constitution. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les combats dans le nord du Soudan du Sud et les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu paraphé par le gouvernement et les rebelles en 2014. Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué, le Conseil de sécurité a déclaré qu'une offensive du gouvernement dans l'état de Unity a provoqué des violences à grande échelle qui ont déplacé 100 000 personnes et provoqué l'interruption de la livraison de l'aide aux civils dans la région. Le Conseil impute par ailleurs aux rebelles une attaque contre la ville de Malakal dans l'état du Haut-Nil. Le groupe des pays d'Afrique de l'Est qui tente de régler le conflit entre le gouvernement du président Salva Kiir et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar a déclaré qu'il était profondément frustré par la violence à Malakal. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a exhorté les deux parties à respecter leur traité et à trouver une issue pacifique à la crise. Le gouvernement sud-soudanais dément que ses forces aient violé l'accord de cessez-le-feu et plaide la légitime défense. Les États-Unis ont fait valoir qu'il n'existe pas de solution militaire à ce conflit.
En Tunisie, le gouvernement se retrouve face à une situation des plus délicates. Libérer 172 Tunisiens détenus en Libye par un groupe de la coalition de milices islamistes Fajr Libya. Leur arrestation vient en représailles à l'arrestation à Tunis de l'un des chefs de l'organisation. Les détails avec Salwa Jafari.
172 ressortissants et le chiffre pourrait être revu à la hausse selon les autorités tunisiennes. Tunis se dit cependant optimiste quant au dénouement de cet épisode. Le consul tunisien à Tripoli a indiqué hier soir que son bureau avait reçu des plaintes de ressortissants tunisiens l'informant des arrestations et de la détention d'un nombre important de leurs compatriotes par une phalange alliée aux forces de Fajr Libya et aux forces de Misrata qui s'appelle Katibat al-Madfaya. Les victimes seraient retenues à Salah ad-Din, dans la région de Tripoli. Les Tunisiens auraient été pris par la milice en représailles à l'arrestation jeudi d'un de leurs chefs, Walid el-Klibi. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par la lutte entre différents groupes armés, dont les milices djihadistes. Sur le plan politique, deux gouvernements se disputent le contrôle du pays, l'un reconnu par la communauté internationale dans l'est du pays, l'autre à Tripoli, sous contrôle de Fajr Libya.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des miliciens chiites se rendent sur le front auprès de Ramadi à l'appel du Premier ministre irakien Haider Abadi. La capitale de la province Al-Anbar dans l'ouest de l'Irak a été prise hier par les combattants du groupe État islamique. Les unités de mobilisation populaire qui avaient aidé l'armée irakienne et des tribus alliées à reprendre Tikrit le mois dernier pourraient renforcer les forces gouvernementales dans le cas d'une contre-offensive pour la reconquête de Ramadi. Maintenant, une distance de seulement 125 km sépare les djihadistes de Bagdad. Mais un porte-parole du Pentagone prédit que Ramadi sera reprise avec l'aide de la coalition. En Amérique du Sud, glissement de terrain dans le nord-ouest de la Colombie. Selon les autorités, au moins 33 personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues. La catastrophe survenue vers 8h GMT a également fait une trentaine de blessés. Le secrétaire d'État américain souhaite maintenir la pression sur la Corée du Nord. Lors d'une conférence de presse à Séoul, après ses entretiens avec la présidente Park Geun-hye et le ministre des Affaires étrangères, John Kerry a rappelé la possibilité de porter le cas de Pyongyang par devant la Cour pénale internationale. La question a été abordée pour la première fois l'an dernier par le Conseil de sécurité et dit John Kerry, ici les violations des droits humains continuent en Corée du Nord et il est probable que la CPI soit saisie. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama veut limiter la militarisation de la police, une annonce destinée à apaiser les tensions après plusieurs émeutes violentes et rétablir un climat de confiance entre les forces de l'ordre et les communautés locale, Claire Morin-Gibourg.
En déplacement à Camden, dans le New Jersey, Barack Obama devrait annoncer cette initiative dans un discours en milieu d'après-midi. Une annonce surprise qui vise à interdire l'utilisation par la police de véhicules blindés à chenilles, de lance-grenades, d'uniformes de camouflage et de certaines armes et munitions de gros calibre. L'encadrement des armes autorisées sera également plus rigoureux à présent. La police américaine bénéficiait jusqu'ici d'un programme de recyclage des équipements du Pentagone, une surmilitarisation des forces de police qui avait particulièrement choqué l'été dernier à Ferguson après la mort de Michael Brown, quand des fusils d'assaut avaient été pointés contre des manifestants et que des policiers patrouillaient à bord de véhicules blindés. Beaucoup avaient alors dénoncé une nouvelle provocation dans les quartiers sensibles nord-américains. La Maison-Blanche espère ainsi restaurer la confiance entre la population des quartiers sensibles et les forces de l'ordre.
Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec, et je cède la place à Camille Grosdidier dans Carrefour Sciences et Santé.
Soyez au cœur de l'info.